Quelques semaines plus tard, quand je remontais, le soleil était déjà couché, pareil à celle que je voyais à Combray au-dessus du calvaire quand je rentrais de promenade et m'apprêtais à descendre avant le dîner à la cuisine, une bande de ciel rouge au-dessus de la mer, compacte et coupante comme de la gelée de viande, puis bientôt sur la mer, déjà froide et bleue comme le poisson appelé mulet, le ciel du même rose qu'un de ces saumons que nous nous ferions servir tout à l'heure à Rivebelle, ravivait le plaisir que j'allais avoir à me mettre en habit pour partir dîner. Sur la mer, tout près du rivage, essayaient de s'élever les unes par-dessus les autres, à étages de plus en plus larges, des vapeurs d'un noir de suie, mais aussi d'un poli, d'une consistance d'agate, d'une pesanteur visible, si bien que les plus élevés, penchant au-dessus de la tige déformée et jusqu'en dehors du centre de gravité de celle qui les avait soutenus jusqu'ici, semblaient sur le point d'entraîner cet échafaudage déjà à demi-hauteur du ciel et de le précipiter dans la mer. La vue d'un vaisseau qui s'éloignait comme un voyageur de nuit me donnait cette même impression que j'avais eue en wagon d'être affranchi des nécessités du sommeil et de la claustration dans une chambre. D'ailleurs, je ne me sentais pas emprisonné dans celle où j'étais, puisque dans une heure j'allais la quitter pour monter en voiture. Je me jetais sur mon lit, et comme si j'avais été sur la couchette d'un des bateaux que je voyais assez près de moi, et que la nuit on s'étonnerait de voir se déplacer lentement dans l'obscurité, comme des cygnes assombris et silencieux mais qui ne dorment pas, j'étais de tous côtés entouré des images de la mer. Mais bien souvent ce n'étaient en effet que des images. J'oubliais que sous leurs couleurs se creusait le triste vide de la plage, parcouru par le vent inquiet du soir que j'avais si anxieusement ressenti à mon arrivée à Balbec. D'ailleurs, même dans ma chambre tout occupée des jeunes filles que j'avais vues passer, je n'étais plus dans des dispositions assez calmes ni assez désintéressées pour que puissent se produire en moi des impressions vraiment profondes de beauté. L'attente du dîner à Rivebelle rendait mon humeur plus frivole encore, et ma pensée, habitant à ces moments-là la surface de mon corps, que j'allais habiller pour tâcher de paraître le plus plaisant possible au regard féminin qui me dévisagerait dans le restaurant illuminé, était incapable de mettre de la profondeur derrière la couleur des choses. Et si, sous ma fenêtre, le vol inlassable et doux des martinets et des hirondelles n'avait pas monté comme un jet d'eau, comme un feu d'artifice de vie, unissant l'intervalle de ces hautes fusées par la filée immobile et blanche de longs sillages horizontaux, sans le miracle charmant de ce phénomène naturel et local qui rattachait à la réalité les paysages que j'avais devant les yeux, j'aurais pu croire qu'il n'était qu'un choix, chaque jour renouvelé, de peinture qu'on montrait arbitrairement dans l'endroit où je me trouvais et sans qu'elles eussent de rapport nécessaire avec lui. Une fois, c'était une exposition d'estampes japonaises. À côté de la mince découpure du soleil rouge et rond comme la lune, un nuage jaune paraissait un lac contre lequel des glaives noirs se profilaient ainsi que les arbres de sa rive, une barre d'un rose tendre que je n'avais jamais revu depuis ma première boîte de couleurs s'enflait comme un fleuve sur les deux rives duquel des bateaux semblaient attendre à sec qu'on vînt les tirer pour les mettre à flot. Et avec le regard dédaigneux, ennuyé et frivole d'un amateur ou d'une femme parcourant entre deux visites mondaines une galerie, je me disais « C'est curieux ce coucher de soleil. C'est différent, mais enfin j'en ai déjà vu d'aussi délicat, d'aussi étonnant que celui-ci. » J'avais plus de plaisir les soirs où un navire absorbé et fluidifié par l'horizon apparaissait tellement de la même couleur que lui, ainsi que dans une toile impressionniste, qu'il semblait aussi de la même matière, comme si on n'eût fait que découper sa coque et les cordages en lesquels elle s'était amincie et filigranée dans le bleu vaporeux du ciel. Parfois l'océan emplissait presque toute ma fenêtre, surélevée qu'elle était par une bande de ciel bordée en haut seulement d'une ligne qui était du même bleu que celui de la mer, mais qu'à cause de cela je croyais être la mer encore, et ne devant sa couleur différente qu'un effet d'éclairage. Un autre jour, la mer n'était peinte que dans la partie basse de la fenêtre, dont tout le reste était rempli de tant de nuages, poussés les uns contre les autres par bandes horizontales, que les carreaux avaient l'air, par une préméditation ou une spécialité de l'artiste, de présenter une étude de nuages, cependant que les différentes vitrines de la bibliothèque, montrant des nuages semblables mais dans une autre partie de l'horizon et diversement colorés par la lumière, paraissaient offrir comme la répétition, chère à certains maîtres contemporains, d'un seul et même effet, pris toujours à des heures différentes, mais qui maintenant, avec l'immobilité de l'art, pouvaient être tous vus ensemble dans une même pièce, exécutée au pastel et mis sous verre. Et parfois, sur le ciel et la mer uniformément gris, un peu de rose s'ajoutait avec un raffinement exquis, cependant qu'un petit papillon qui s'était endormi au bas de la fenêtre semblait apposer avec ses ailes, au bas de cette harmonie gris et rose dans le goût de celle de Whistler, la signature favorite du maître de Chelsea. Le rose même disparaissait, il n'y avait plus rien à regarder. Je me mettais debout un instant, et avant de m'étendre de nouveau, je fermais les grands rideaux. Au-dessus d'eux, je voyais de mon lit la raide clarté qui y restait encore, s'assombrissant, s'amincissant progressivement. Mais c'est sans m'attrister et sans lui donner de regrets que je laissais ainsi mourir au haut des rideaux l'heure où d'habitude j'étais à table, car je savais que ce jour-ci était d'une autre sorte que les autres, plus long, comme ceux du pôle que la nuit interrompt seulement quelques minutes. Je savais que de la chrysalide de ce crépuscule se préparait à sortir par une radieuse métamorphose la lumière éclatante du restaurant de Rivebelle. Je me disais, il est temps. Je m'étirais sur le lit, je me levais, j'achevais ma toilette, et je trouvais du charme à ces instants inutiles, allégé de tout fardeau matériel où, tandis qu'en bas les autres dînaient, je n'employais les forces accumulées pendant l'inaction de cette fin de journée qu'à sécher mon corps, à passer un smoking, à attacher ma cravate, à faire tous ces gestes que guidait déjà le plaisir attendu de revoir telle femme que j'avais remarquée la dernière fois à Rivebelle, qui avait paru me regarder, n'était peut-être sortie un instant de table que dans l'espoir que je la suivrais. C'est avec joie que j'ajoutais à moi tous ces appâts pour me donner entier et dispo à une nouvelle vie, libre, sans souci, où j'appuierais mes hésitations au calme de Saint-Loup et choisirais entre les espèces de l'histoire naturelle et les provenances de tous les pays, celle qui, composant les plats inusités aussitôt commandés par mon ami, aurait tenté ma gourmandise ou mon imagination. Et tout à la fin, les jours vinrent où je ne pouvais plus rentrer de la digue par la salle à manger. Ses vitres n'étaient plus ouvertes car il faisait nuit dehors et les seins des pauvres et des curieux attirés par le flamboiement qu'ils ne pouvaient atteindre pendaient en noires grappes morfondues par la bise aux parois lumineuses et glissantes de la ruche de verre. On frappa. C'était Aimé qui avait tenu à m'apporter lui-même les dernières listes d'étrangers. Aimé, avant de se retirer, tint à me dire que Dreyfus était mille fois coupable. « On saura tout, » me dit-il. « Pas cette année, mais l'année prochaine. C'est un monsieur Trélier dans l'état-major qui me l'a dit. » Je lui demandais si on ne se déciderait pas à tout découvrir tout de suite avant la fin de l'année. Il a posé sa cigarette, continua Aimé en mimant la scène et en secouant la tête et l'index comme avait fait son client, voulant dire « Il ne faut pas être trop exigeant. » « Pas cette année, Aimé, » qu'il m'a dit en me touchant l'épaule. « Ce n'est pas possible. Mais à Pâques, oui. » Et Aimé me frappa légèrement sur l'épaule en me disant « Vous voyez, je vous montre exactement comme il a fait. » Soit qu'il fût flatté de cette familiarité d'un grand personnage, soit pour que je puisse mieux apprécier en pleine connaissance de cause la valeur de l'argument et nos raisons d'espérer.
Ce ne fut pas sans un léger choc au cœur qu'à la première page de la liste des étrangers,
j'aperçus les mots « Simonet et famille ». J'avais en moi de vieilles rêveries qui dataient de mon enfance et où toute la tendresse qui était dans mon cœur, mais qui, éprouvée par lui, ne s'en distinguait pas, m'était apportée par un être aussi différent que possible de moi. Cet être, une fois de plus, je le fabriquais en utilisant pour cela le nom de Simonet et le souvenir de l'harmonie qui régnait entre les jeunes corps que j'avais vus se déployer sur la plage en une procession sportive digne de l'antique et de Giotto. Je ne savais pas laquelle de ces jeunes filles était Mademoiselle Simonet, si aucune d'elles s'appelait ainsi, mais je savais que j'étais aimée de Mademoiselle Simonet et que j'allais, grâce à Saint-Loup, essayer de la connaître. Malheureusement, n'ayant obtenu qu'à cette condition une prolongation de congé, il était obligé de retourner tous les jours à Doncières. Mais pour le faire manquer à ses obligations militaires, j'avais cru pouvoir compter, plus encore que sur son amitié pour moi, sur cette même curiosité de naturaliste humain que, si souvent, même sans avoir vu la personne dont on parlait, et rien qu'à entendre dire qu'il y avait une jolie caissière chez un fruitier, j'avais eu de faire connaissance avec une nouvelle variété de la beauté féminine. Or, cette curiosité, c'est à tort que j'avais espéré l'exciter chez Saint-Loup, en lui parlant de mes jeunes filles, car elle était pour longtemps paralysée en lui par l'amour qu'il avait pour cette actrice dont il était l'amant. Et même l'eût-il légèrement ressenti qu'il l'eût réprimée à cause d'une sorte de croyance superstitieuse que de sa propre fidélité pouvait dépendre celle de sa maîtresse. Aussi fût-ce sans qu'il m'eût promis de s'occuper activement de mes jeunes filles que nous partîmes dîner à Rivebelle. Les premiers temps, quand nous y arrivions, le soleil venait de se coucher, mais il faisait encore clair. Dans le jardin du restaurant, dont les lumières n'étaient pas encore allumées, la chaleur du jour tombait, se déposait comme au fond d'un vase le long des parois duquel la gelée transparente et sombre de l'air semblait si inconsistante qu'un grand rosier appliqué au mur obscurci qu'il venait de rose avait l'air de l'arborisation qu'on voit au fond d'une pierre d'onyx. Bientôt, ce ne fut qu'à la nuit que nous descendions de voiture. Souvent même que nous partions de Balbec, si le temps était mauvais, que nous eussions retardé le moment de faire atteler dans l'espoir d'une accalmie. Mais ces jours-là, c'est sans tristesse que j'entendais le vent souffler. Je savais qu'il ne signifiait pas l'abandon de mes projets, la réclusion dans une chambre. Je savais que, dans la grande salle à manger du restaurant, où nous entrerions au son de la musique des tziganes, les innombrables lampes triompheraient aisément de l'obscurité et du froid en leur appliquant leurs larges cautères d'or. Et je montais gaiement à côté de Saint-Loup dans le coupé qui nous attendait sous la berce. Depuis quelque temps, les paroles de Bergotte se disant convaincues que, malgré ce que je prétendais, j'étais fait pour goûter surtout les plaisirs de l'intelligence, m'avait rendu au sujet de ce que je pourrais faire plus tard une espérance que décevait chaque jour l'ennui que j'éprouvais à me mettre devant une table à commencer une étude critique ou un roman. Après tout, me disais-je, peut-être le plaisir qu'on a eu à l'écrire n'est-il pas le critérium infaillible de la valeur d'une belle page ? Peut-être n'est-il qu'un état accessoire qui s'y surajoute souvent, mais dont le défaut ne peut préjuger contre elle. Peut-être certains chefs-d'œuvre ont-ils été composés en bâillant. Ma grand-mère apaisait mes doutes en me disant que je travaillerais bien et avec joie si je me portais bien. Et notre médecin ayant trouvé plus prudent de m'avertir des graves risques auxquels pouvait m'exposer mon état de santé, et m'ayant tracé toutes les précautions d'hygiène à suivre pour éviter un accident, je subordonnais tous les plaisirs au but que je jugeais infiniment plus important qu'eux de devenir assez fort pour pouvoir réaliser l'œuvre que je portais peut-être en moi. J'exerçais sur moi-même, depuis que j'étais à Balbec, un contrôle minutieux et constant. On aurait pu me faire toucher à la tasse de café qui m'eût privé du sommeil de la nuit, nécessaire pour ne pas être fatigué le lendemain. Mais quand nous arrivions à Rivebelle, aussitôt, à cause de l'excitation d'un plaisir nouveau, et me trouvant dans cette zone différente où l'exceptionnel nous fait entrer après avoir coupé le fil patiemment tissé depuis tant de jours qui nous conduisait vers la sagesse, comme s'il ne devait plus jamais y avoir de lendemain, ni de fins élevées à réaliser, disparaissait ce mécanisme précis de prudente hygiène qui fonctionnait pour les sauvegarder. Tandis qu'un valet de pied me demandait mon paletot, Saint-Loup me disait « Vous n'aurez pas froid, vous feriez peut-être mieux de le garder, il ne fait pas très chaud. » Je répondais « Non, non, et peut-être je ne sentais pas le froid, mais en tout cas je ne savais plus la peur de tomber malade, la nécessité de ne pas mourir, l'importance de travailler. » Je donnais mon paletot. Nous entrions dans la salle du restaurant au son de quelques marches guerrières jouées par les tziganes. Nous nous avancions entre les rangées de tables servies comme dans un facile chemin de gloire, et, sentant l'ardeur joyeuse imprimée à notre corps par les rythmes de l'orchestre qui nous décernait ces honneurs militaires et ce triomphe immérité, nous la dissimulions sous une mine grave et glacée, sous une démarche pleine de lassitude, pour ne pas imiter ces gommeuses de café-concert qui, venant chanter sur un air belliqueux un couplet grivois, entrent en courant sur la scène avec la contenance martiale d'un général vainqueur. À partir de ce moment-là, j'étais un homme nouveau qui n'était plus le petit-fils de ma grand-mère et ne se souviendrait d'elle qu'en sortant, mais le frère momentané des garçons qui allaient nous servir. La dose de bière, à plus forte raison de champagne, qu'à Balbec je n'aurais pas voulu atteindre en une semaine, alors pourtant qu'à ma conscience calme et lucide la saveur de ces breuvages représentait un plaisir clairement appréciable, mais aisément sacrifié, je l'absorbais en une heure en y ajoutant quelques gouttes de porto, trop distrait pour pouvoir le goûter, et je donnais au violoniste qui venait de jouer les 2 louis que j'avais économisés depuis 1 mois en vue d'un achat que je ne me rappelais pas. Quelques-uns des garçons qui servaient, lâchés entre les tables, fuyaient à toute vitesse, ayant sur leur paume tendue un plat que cela semblait être le but de ce genre de course de ne pas laisser choir. Et de fait, les soufflets au chocolat arrivaient à destination sans avoir été renversés. Les pommes à l'anglaise, malgré le galop qui avait dû les secouer, rangées comme au départ autour de l'agneau de Pauillac. Je remarquai un de ses servants, très grand, emplumé de superbes cheveux noirs, la figure fardée d'un teint qui rappelait davantage certaines espèces d'oiseaux rares que l'espèce humaine, et qui, courant sans trêve et, eût-on dit, sans but, d'un bout à l'autre de la salle, faisait penser à quelqu'un de ces aras qui remplissent les grandes volières des jardins zoologiques de leur ardent coloris et de leur incompréhensible agitation. Bientôt le spectacle s'ordonna, à mes yeux du moins, d'une façon plus noble et plus calme. Toute cette activité vertigineuse se fixait en une calme harmonie. Je regardais les tables rondes dont l'assemblée innombrable emplissait le restaurant comme autant de planètes telles que celles-ci sont figurées dans les tableaux allégoriques d'autrefois. D'ailleurs, une force d'attraction irrésistible s'exerçait entre ces astres divers, et à chaque table, les dîneurs n'avaient Dieu que pour les tables où ils n'étaient pas, exception faite pour quelque riche amphitryon, lequel, ayant réussi à amener un écrivain célèbre, s'évertuait à tirer de lui, grâce aux vertus de la table tournante, des propos insignifiants dont les dames s'émerveillaient. L'harmonie de ces tables astrales n'empêchait pas l'incessante révolution des servants innombrables, lesquels, parce qu'au lieu d'être assis comme les dîneurs, ils étaient debout, évoluaient dans une zone supérieure. Sans doute l'un courait porter des hors-d'œuvre, changer le vin, ajouter des verres. Mais malgré ces raisons particulières, Leur course perpétuelle entre les tables rondes finissait par dégager la loi de sa circulation vertigineuse et réglée. Assises derrière un massif de fleurs, deux horribles caissières, occupées à des calculs sans fin, semblaient deux magiciennes occupées à prévoir par des calculs astrologiques les bouleversements qui pouvaient parfois se produire dans cette voûte céleste conçue selon la science du Moyen-Âge. Et je plaignais un peu tous les dîneurs, parce que je sentais que pour eux les tables rondes n'étaient pas des planètes, et qu'ils n'avaient pas pratiqué dans les choses un sectionnement qui nous débarrasse de leur apparence coutumière et nous permet d'apercevoir des analogies. Ils pensaient qu'ils dînaient avec telle ou telle personne, que le repas coûterait à peu près tant, et qu'ils recommenceraient le lendemain. Et ils paraissaient absolument insensibles au déroulement d'un cortège de jeunes commis qui, probablement n'ayant pas à ce moment de besogne urgente, portaient processionnellement des pains dans des paniers. Quelques-uns, trop jeunes, abrutis par les taloches que leur donnaient en passant les maîtres d'hôtel, fixaient mélancoliquement leurs yeux sur un rêve lointain et n'étaient consolés que si quelques clients de l'hôtel de Balbec où ils avaient jadis été employés, les reconnaissant, leur adressaient la parole et leur disaient personnellement d'emporter le champagne qui n'était pas buvable, ce qui les remplissait d'orgueil. J'entendais le grondement de mes nerfs dans lesquels il y avait du bien-être, indépendant des objets extérieurs qui peuvent en donner, et que le moindre déplacement que j'occasionnais à mon corps, à mon attention, suffisait à me faire éprouver, comme un œil fermé, une légère compression donne la sensation de la couleur. J'avais déjà bu beaucoup de Porto, et si je demandais à en prendre encore, c'était moins en vue du bien-être que les verres nouveaux m'apporteraient que par l'effet du bien-être produit par les verres précédents. Je laissais la musique conduire elle-même mon plaisir sur chaque note où, docilement, il venait alors se poser. Si, pareil à ces industries chimiques grâce auxquelles sont débités en grande quantité des corps qui ne se rencontrent dans la nature que d'une façon accidentelle et fort rarement, ce restaurant de Rivebelle réunissait en un même moment plus de femmes au fond desquelles me sollicitaient des perspectives de bonheur que le hasard des promenades ou des voyages ne m'en eût fait rencontrer en une année, d'autre part cette musique que nous entendions, arrangement de valses, d'opérettes allemandes, de chansons de café-concert, toutes nouvelles pour moi, était elle-même comme un lieu de plaisir aérien, superposé à l'autre et plus grisant que lui. Car chaque motif, particulier comme une femme, ne réservait pas, comme elle eût fait, pour quelque privilégié le secret de volupté qu'il recélait. Il me le proposait, me reluquait, venait à moi d'une allure capricieuse ou canaille, m'accostait, me caressait, comme si j'étais devenu tout d'un coup plus séduisant, plus puissant ou plus riche. Je leur trouvais bien à ces airs quelque chose de cruel. C'est que tout sentiment désintéressé de la beauté, tout reflet de l'intelligence leur était inconnu. Pour eux, le plaisir physique existe seul. Et ils sont l'enfer le plus impitoyable, le plus dépourvu d'issue pour le malheureux jaloux à qui ils présentent ce plaisir que la femme aimée goûte avec un autre, comme la seule chose qui existe au monde pour celle qui le remplit tout entier. Mais tandis que je répétais à mi-voix les notes de cet air et lui rendais son baiser, la volupté à lui spéciale qu'il me faisait éprouver me devenait si chère que j'aurais quitté mes parents pour suivre le motif dans le monde singulier qu'il construisait dans l'invisible, en lignes tour à tour pleines de langueur et de vivacité. Quoiqu'un tel plaisir ne soit pas d'une sorte qui donne plus de valeur à l'être auquel il s'ajoute, car il n'est perçu que de lui seul, et quoique, chaque fois que dans notre vie nous avons déplu à une femme qui nous a aperçus, elle ignora si à ce moment-là nous possédions ou non cette félicité intérieure et subjective qui, par conséquent, n'eût rien changé au jugement qu'elle porta sur nous, je me sentais plus puissant, presque irrésistible. Il me semblait que mon amour n'était plus quelque chose de déplaisant, et dont on pouvait sourire, mais avait précisément la beauté touchante, la séduction de cette musique, semblable elle-même à un milieu sympathique où celle que j'aimais et moi nous nous serions rencontrés, soudain devenus intimes. Le restaurant n'était pas fréquenté seulement par des demi-mondaines, mais aussi par des gens du monde le plus élégant, qui y venaient goûter vers 5 heures ou y donnaient de grands dîners. Les goûters avaient lieu dans la longue galerie vitrée, étroite, en forme de couloir qui, allant du vestibule à la salle à manger, longeait sur un côté le jardin duquel elle n'était séparée, en exceptant quelques colonnes de pierre, que par le vitrage qu'on ouvrait ici ou là. Il en résultait, outre de nombreux courants d'air, des coups de soleil brusques, intermittents, un éclairage éblouissant et instable, empêchant presque de distinguer les goûteuses, ce qui faisait que, quand elles étaient là, empilées deux tables par deux tables dans toute la longueur de l'étroit goulot, comme elles chatoyaient à tous les mouvements qu'elles faisaient pour boire leur thé ou se saluer entre elles, on aurait dit un réservoir, une nasse où le pêcheur a entassé les éclatants poissons qu'il a pris, lesquels, à moitié hors de l'eau et baignés de rayons, miroitent au regard en leur éclat changeant. Quelques heures plus tard, pendant le dîner qui, lui, était naturellement servi dans la salle à manger, on allumait les lumières, bien qu'il fît encore clair dehors, de sorte qu'on voyait devant soi, dans le jardin, à côté de pavillons éclairés par le crépuscule, et qui semblaient les pâles spectres du soir, des charmilles dont la glauque verdure était traversée par les derniers rayons, et qui, de la pièce éclairée par les lampes où on dînait, apparaissaient au-delà du vitrage, non plus comme on aurait dit des dames qui goûtaient à la fin de l'après-midi le long du couloir bleuâtre et or, dans un filet étincelant et humide, mais comme les végétations d'un pâle et vert aquarium géant à la lumière surnaturelle. On se levait de table, et si les convives, pendant le repas, tout en passant leur temps à regarder, à reconnaître, à se faire nommer les convives du dîner voisin, avaient été retenus dans une cohésion parfaite autour de leur propre table, la force attractive qui les faisait graviter autour de leur amphitryon d'un soir perdait de sa puissance au moment où, pour prendre le café, ils se rendaient dans ce même couloir qui avait servi au goûter. Il arrivait souvent qu'au moment du passage, tel dîner en marche abandonna l'un ou plusieurs de ces corpuscules qui, ayant subi trop fortement l'attraction du dîner rival, se détachaient un instant du leur, où ils étaient remplacés par des messieurs ou des dames qui étaient venus saluer des amis avant de rejoindre, en disant « Il faut que je me sauve retrouver M. X, dont je suis ce soir l'invité. » Et pendant un instant, on aurait dit de deux bouquets séparés qui auraient interchangé quelques-unes de leurs fleurs. Puis le couloir lui-même se vidait. Souvent, comme il faisait même après dîner encore un peu jour, on n'allumait pas ce long corridor et, côtoyé par les arbres qui se penchaient au dehors de l'autre côté du vitrage, il avait l'air d'une allée dans un jardin boisé et ténébreux. Parfois, dans l'ombre, une dîneuse s'y attardait. En le traversant pour sortir, j'y distinguais un soir, assise au milieu d'un groupe inconnu, la belle princesse de Luxembourg. Je me découvris sans m'arrêter. Elle me reconnut, inclina la tête en souriant. Très au-dessus de ce salut, émanant de ce mouvement même, s'élevèrent mélodieusement quelques paroles à mon adresse qui devaient être un bonsoir un peu long, non pour que je m'arrêtasse, mais seulement pour compléter le salut, pour en faire un salut parlé. Mais les paroles restèrent si indistinctes et le son que seul je perçus se prolongea si doucement et me sembla si musical, que ce fut comme si dans la ramure assombrie des arbres, un rossignol se fût mis à chanter.